France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, à l'honneur de nos trésors d'archives, aujourd'hui et demain, Sir Neville Mariner, le violoniste et chef d'orchestre britannique que Mildred Clary avait reçu à son micro pour un portrait en concert. C'était sur notre antenne en 1988. Au cours de la première partie de cet entretien, Neville Mariner nous racontera comment est née l'Academy of St. Martin in the Fields, l'orchestre de chambre qu'il a fondé à la fin des années 50. Un orchestre pionnier dans la redécouverte du répertoire baroque qui, à ses débuts, n'était composé que d'instruments à cordes. Sir Neville Mariner nous dira combien il doit à cet orchestre et à ses musiciens et nous livrera les secrets de sa sonorité.
Bonjour. Avant de m'entretenir avec Sir Neville Mariner, je vous propose d'écouter tout de suite une œuvre de Vaughan Williams. Les variations qu'il a composées sur un thème du grand compositeur anglais du XVIe siècle, Thomas Tallis. Orchestre St. Martin in the Fields, Sir Neville Mariner. Nous écoutions les variations sur un thème de Thomas Tallis de Vaughan Williams, interprété par l'orchestre St. Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner. J'ai posé beaucoup de questions à Sir Neville Mariner un peu en vrac, notamment celle de savoir, après le travail solitaire qu'il réalise sur une partition, l'approfondissement intérieur que cela suppose, comment il communique cela ensuite à l'orchestre, pas seulement par le geste.
I think that if you are to be a successful conductor at all,
je crois que si on veut être un bon chef, il faut arriver à la première répétition non pas avec des opinions en ce qui concerne l'interprétation de la partition, mais avec des convictions. Et il faut trouver le moyen de communiquer ces convictions à l'orchestre.
And one of the great tricks then in communication is to make sure that by the end of your rehearsal period,
il faut qu'à la fin de la période des répétitions, l'orchestre soit convaincu que c'est comme ça que lui veut jouer l'œuvre. En ce qui concerne les instrumentistes, avant où il y a une première flûte, un premier hautbois, etc., les trompettes, les cors, c'est moins difficile parce qu'il ne s'agit que d'une personne. Mais derrière le premier violon, il peut y en avoir 18 autres. Avec des personnalités différentes qui essayent tous de jouer la même mélodie, le même thème.
And first of all, you have to persuade them not only
et
to play
il faut déjà
way,
arriver à les convaincre
way,
à jouer de votre façon, mais aussi
and
que tous soient d'accord entre eux, 18 personnes différentes.
Who were themselves string players
je crois
very
que c'est plus
lucky.
Facile pour un chef qui a été lui-même instrumentiste à cordes, qui est mon cas, car il a le vocabulaire voulu pour communiquer techniquement ce qu'il veut, et puis peut-être un instinct pour communiquer ses sentiments. Et ça va plus vite. Et on arrive à les unifier plus facilement. Une fois qu'on a dominé le problème des instrumentistes à cordes et que l'œuvre est conceptualisée vis-à-vis d'eux, à ce moment-là, le reste de l'orchestre suit. Moi, je suis toujours plus heureux lorsque je dirige pour la première fois une œuvre d'avoir d'abord quelques répétitions avec les cordes seules. Comme ça, on élimine tous leurs problèmes. Et puis, le reste est consacré à l'orchestre dans son ensemble.
Dans la pièce de Vaughan Williams que nous venons d'entendre et dans beaucoup d'interprétations et d'enregistrements dirigés par Sir Neville Mariner, on est frappé par la sonorité particulièrement belle de l'orchestre. Quel en est le secret?
I think you must make encouraging sounds to the particularly again
je crois qu'il faut en particulier encourager la section des cordes et peut-être décourager la section des cuivres. Vous savez, j'ai vécu avec beaucoup d'orchestres américains, par exemple celui de Chicago, qui a une section de cuivre qui est la plus puissante que je connaisse. C'est une sonorité fantastique. Mais à comparer à la section des cordes, même de l'orchestre de Chicago, c'est un peu envahissant.
Avec cet orchestre-là,
moi, j'ai l'impression que parce que les cuivres sont si forts, il faut que les cordes forcent. Et ça déforme leur sonorité. Donc, si je travaille avec eux, d'abord, j'obtiens des cordes, la sonorité que je veux. C'est-à-dire, je les détends et je les laisse chanter. Vous savez, les instruments à cordes doivent chanter. Ce sont des instruments cantabiles. Quoi qu'en pensent certains compositeurs contemporains.
A singing instrument.
Par nature, c'est un instrument qui doit chanter.
Chorus, trombones, horns, trumpets.
Un ensemble de cuivres
should, for me, sound very much like an organ.
Doit,
when you put your hands down
à mon sens,
sonner
you
have an equally
comme un orgue.
Sonority.
Lorsque
But
vous posez vos mains sur le clavier, il faut que la sonorité soit équilibrée partout
and so you
et soit en rapport avec ce que peut obtenir la section des cordes. Donc il ne faut pas forcer. Vous savez, ce sont des instruments très délicats qui ont été fabriqués il y a plus de 300 ans. Et qui ont une limite dans leurs possibilités. C'est pareil pour les vents. Si on force un instrument à vent, La sonorité devient vulgaire, vilaine. Donc, j'ai tendance à travailler un petit peu en marche arrière, en commençant par les potentialités des instruments à cordes. Ensuite, je travaille pour unifier aux cordes, je travaille les instruments avant. Et en dernier, les cuivres, à qui je dis, voilà, pas plus de volume que ça. Ils ne sont pas toujours très heureux parce qu'ils ont encore une réserve peut-être de 30 ou de 40% de volume. Et que c'est beaucoup plus difficile de jouer doucement un instrument, un cuivre.
And of course, the percussion and the timpani also.
Évidemment, enfin, il faut unifier aussi la percussion.
If the end product
et si le résultat final est bon, eh bien, j'ai de la chance.
But I think I've yet to meet.
Mais vous savez, je n'ai encore jamais rencontré un musicien qui veut toute sa vie délibérément produire une sonorité laide. Et je crois que si on peut leur faire prendre conscience de ce qu'ils font exactement, à ce moment-là, ils coopère tout à fait avec vous.
Thank you.
Sébastien Bach, concerto numéro 2 en Fa majeur, BWV 1047, interprété par The Academy of St. Martin in the Fields, dirigé par Neville Mariner, avec en soliste Henrik Schering, violon, Michala Petri, flûte à bec, Heinz Holliger, hautbois et André Bernard, trompette. Depuis quelque temps, ce Neville Mariner dirige de plus en plus souvent des grands orchestres symphoniques dans le monde, mais il a dirigé constamment son orchestre de chambre St. Martin in the Fields durant de très longues années. Je lui ai demandé ce qui le retenait auprès de ses musiciens. Est-ce une question de répertoire avant tout qu'il affectionne particulièrement?
Certainly, if I had not worked with the Academy, I would not have made
Il est certain que si je n'avais pas travaillé avec l'Académie de St. Martin in the Fields, je ne me serais pas fait la réputation que j'ai actuellement dans le monde de la musique. Je dois beaucoup au talent des musiciens de ce groupe. Eux, ils continuent à jouer de leurs instruments, tandis que moi, je me promène un peu partout dans le monde en train de diriger beaucoup d'orchestres. Et je leur dois ça. Je ne les abandonnerai certainement pas, car en plus,
consistent quality than any other group
Ils
in the
me
world.
Donnent
Why? Because they're particularly good musicians, all of them.
Because they're particularly
La permanence,
good,
disons, d'une certaine qualité.
The organization is constituted that they feel responsible
Aussi
for their
à cause
own
de la façon
standards.
Dont l'orchestre est organisé. Ils sont responsables de leur propre niveau.
They will work
Ils sont très consciencieux.
Much longer
Ils travailleront
than
bien au-delà des heures normales
normally
d'un
contracted orchestre. To do anywhere in the world. They don't have contracts,
Ils n'ont pas de contrat, vous comprenez.
Self-providing, are they, the way most symphony orchestras in England would be?
Well, they certainly have
Ils
no security from one day to
n'ont aucune sécurité d'un jour à l'autre. Moi, peut-être que je leur paye mieux que ne le ferait quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas leur donner une sécurité permanente, ni même pour la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on est aussi bon que la dernière fois qu'on a joué, en fait.
People have been in the orchestra
il y a des gens, vous savez, qui sont là-dedans depuis 25 ans, il y en a qui sont là seulement depuis 18 heures.
You play for your supper, as far
on
as
joue pour,
so that they do give a
pour dîner, en
sort of performance than any other
Donc, ils donnent
une
performance qui est très différente des autres orchestres.
Are a different problem.
Les orchestres qui sont sous contrat posent d'autres problèmes.
Particularly in America, where
En Amérique,
si
vous faites partie d'un orchestre à Minneapolis, par exemple, où j'ai travaillé,
vous
êtes vraiment situé géographiquement dans le milieu de nulle part. Et si vous quittez votre domicile pour aller travailler à Minneapolis, il est certain que vous ne pouvez pas prendre le risque d'être congédié. Donc là, il faut une sécurité. À Londres, c'est très différent, je crois, parce que Londres est une ville tellement grande et où se passe tant de musique tout le temps que si vous perdez votre situation dans un orchestre, il y a de fortes chances pour que vous trouviez un autre travail ailleurs. Je crois que c'est très difficile pour des musiciens de travailler dans un orchestre de radio. C'est-à-dire à jouer devant un micro, une lumière rouge, et à l'intérieur de quatre murs. Je pense que pour les musiciens, c'est très frustrant. Ils ne peuvent pas mesurer l'impact auprès du public de ce qu'ils font. Et je crois qu'il est tout à fait important que ces orchestres-là soient exposés au maximum au public. S'ils font des concerts, ce doit être des concerts public. Ils doivent faire des tournées. Ils doivent savoir comment les autres font. Ça change tout à fait leur approche
in front of the public
en ce qui concerne la musique, lorsqu'ils se trouvent devant un public.
I think it was not from choice of repertoire that I stayed.
Je ne pense pas que ce soit à cause du répertoire que je sois resté avec l'académie pendant si longtemps. Vous savez, j'ai commencé comme violoniste dans des orchestres symphoniques moi-même, puis j'avais un trio à cordes, un quatuor à cordes.
I earned my living.
Mais je gagne ma vie à l'intérieur de l'orchestre. Je comprends leurs problèmes. Je connais leur littérature musicale. Et vous savez, quand on a commencé l'académie, on estimait qu'on était des réfugiés des chefs d'orchestre, car on jouait sans chef. Et la musique des 17e et 18e siècles que nous jouions n'avait pas besoin de chef. Quand le groupe s'est élargi à ce moment-là, on avait besoin ensuite d'un chef. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé, à ce moment-là, j'ai eu envie de revenir à des orchestres symphoniques parce que le répertoire est plus vaste.
Les trésors de France Musique.
Thank you.
De Serge Prokofiev, nous écoutions Lieutenant Quiger, suite symphonique opus 60, interprété par l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Sir Neville Mariner. Sir Neville Mariner a commencé ses études musicales comme violoniste au Royal College of Music de Londres. Il est même venu travailler à Paris, au conservatoire, dans la classe de René Benedetti, après quoi il devient deuxième violon du Quatuor Martin. Il fonde un trio à cordes, puis c'est la rencontre avec le musicologue et interprète Thurston Dart, avec qui il fonde l'ensemble jacobéen, voué, comme l'indique son nom, à la musique du XVIIe siècle.
I was really quite content playing the violin. I wasn't wonderful.
J'étais plutôt heureux de jouer du violon. J'étais pas un merveilleux violoniste, mais je n'étais pas si mauvais non plus. J'étais tout de même capable d'être leader d'un orchestre de chambre assez célèbre, avec lequel nous avons réalisé beaucoup d'enregistrements, c'est-à-dire dans les débuts de l'Académie. En ce qui concerne le quatuor à cordes, j'étais deuxième violon. On apprend beaucoup, mais je n'avais pas envie de passer ma vie là. En ce qui concerne le trio, j'étais évidemment le violoniste, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Mais la littérature est si restreinte que je ne pouvais pas non plus continuer là. L'ensemble jacobéen de Thurston Dart est un ensemble qui a existé un peu avant que le public ne soit prêt à recevoir ce type de musique des 17e et 18e siècles. C'est-à-dire très différent de maintenant. J'ai eu beaucoup de chance de côtoyer Thurston Dart, qui était un grand musicologue, un grand styliste et un grand interprète aussi. Il m'a beaucoup appris sur les conventions de la musique de cette période. Mais le malheur, c'est qu'il n'y avait pas de public, au fond, qui s'y intéressait à cette période. Et c'est là où j'ai fondé l'Académie. Ça convenait à mon type de jeu au violon. Je ne venais pas de la grande école franco-belge ou russe. J'étais singulièrement britannique.
What does that mean exactly?
Well, British are not normally extrovert people.
C'est-à-dire plutôt introvertis, comme vous savez. Et l'intensité d'émotion qu'ils peuvent éprouver, c'est quelque chose tout de même d'assez restreint, assez couvert. Et quand on joue sur des instruments d'époque, la gamme des émotions est tout de même relativement limitée, ne serait-ce qu'à cause des instruments qui sont limités dans leurs possibilités dynamiques. Mais il existe néanmoins une certaine intensité d'émotion. Et moi, cela me convenait vraiment bien. C'était tout à fait dans mes capacités techniques et dans ma nature. Et nous nous sommes entourés de musiciens qui avaient un peu les mêmes capacités. Moi, j'avais le sentiment que j'étais dans les mains d'un maître avec Thurston Dart, parce qu'il m'a appris l'ornementation, il m'a appris les problèmes de style. J'étais très heureux à l'intérieur de ce groupe-là. Mais il n'y avait pas d'avenir pour ce groupe à cette période, comme j'ai dit. Et avec l'Académie, nous avons pu élargir le répertoire, jouer sur des instruments modernes, et aussi nous aventurer jusque dans le 19e et même dans le 20e siècle. François Couperin le Grand, nous écoutions un extrait des Nations, un extrait du quatrième ordre, la Piémontoise, interprété par l'ensemble jacobéen, Neville Mariner et Carl Pini, violon, Desmond Dupré, viol de gambe et Thurston Dart, clavecin.
Perhaps the reason that Thurston Dart really tolerated me.
Je suppose que Thurston Dart a toléré ma présence. Parce qu'il est assez difficile de trouver des instrumentistes à cordes qui aient en même temps des capacités techniques suffisantes pour dominer l'instrument, mais qui n'aient en même temps pas cette virtuosité renversante qui serait complètement en dehors du style de cette musique. Par exemple, les vibratos très rapides ou certains types de coups d'archet.
Et certainement, Purcell sits very well in my hands.
Purcell me convenait très bien.
I really couldn't play anything nowadays.
Je jouais ça, je crois, bien. Je serais plus capable de le faire aujourd'hui. Je ne sais même plus où est mon violon. Mais à l'époque, nous avons joué toutes les sonates en trio de Purcell. J'adorais ça. Et aussi un grand nombre des fantaisies pour 3 et 4 instruments.
Which is enormously,
c'est une atmosphère qui est incroyablement gratifiante. Ensuite, nous avons transporté tout cela à l'Académie où nous avons enregistré énormément de Vivaldi. C'est une musique où il y a une sorte d'inévitabilité qui est très satisfaisante et qui rassure l'auditeur. Il y a eu une vogue incroyable de cette musique à cette période. Un peu en même temps que la vogue de la musique pop et du groupe des Beatles. Je crois qu'ils étaient à égalité en ce qui concerne la popularité. Pas en nombre égal, évidemment. Mais il y avait une sorte de simplicité dans cette musique qui plaisait beaucoup. Thank you.
Antonio Vivaldi, concerto pour deux hautbois, cordes et continuo en la mineur, interprété par l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner. Ainsi se referme le premier volet du portrait en concert du chef d'orchestre britannique que recevait Mildred Clary sur France Musique en 1988. À suivre demain la seconde partie de cet entretien. Cette archive est à retrouver en podcast sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.